Je crois qu'on pourrait désigner là le phénomène de l'existentialisme. Eh bien, dans sa recherche, dans son expérience, l'existentialiste rencontre finalement ce dont parle la Bible. Et alors, par exemple, moi je pensais en lisant ce Midrash à un phénomène comme Gabriel Marcel, par exemple. Eh bien, du dedans de l'expérience philosophique existentielle, finalement, il s'approche de la... Sartre ne s'y approche pas, ou peut-être d'une autre manière, enfin, finalement, il s'approche de ce dont les prophètes avaient parlé. Mais il y a quelque chose qui bloque, malgré tout, et il n'entre pas en Israël comme Jéthro. Et ce quelque chose-là, je ne connais pas Gabriel Marcel, je ne peux pas le dire pour lui, hein, simplement un nom que j'ai cité, ce phénomène-là, comme la Bible en parle, c'est ce que Balak demande à Bilam, hein, c'est le phénomène de l'antisémitisme, c'est-à-dire de haine vis-à-vis d'Israël. Il y a donc une dimension historique qui s'insère dans ce problème de la différence entre la prophétie en Israël et en dehors d'Israël, c'est le fait que l'identité d'Israël comme manière d'être homme spécifique est en jeu. Et sur ce premier point déjà, nous aurons d'ailleurs à le confirmer, nous avons dans la Gemara de Brachot un texte qui montre bien que ce souci était le souci de Moïse lui-même. Et je vous le lis, c'est dans la page 7a de la Maseret Brachot, Zayin Aleph, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yose. C'est un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yose. Shlosha Devarim Bikesh Moshe Mishna Kadosh Baruch. C'est-à-dire, lorsque Moïse est monté au Sinaï pour recevoir la révélation de la Torah, Moïse a demandé trois choses à Dieu. Venatando, et il lui a donné. Première chose, Bikesh, chez Tishra Shrina à l'Israël. Il a demandé que la Shrina réside sur Israël. Et il l'a obtenu. D'abord, très rapidement, sur cette première demande, quelle est la question, si vous voulez, c'est que la Shrina était en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que Moïse demande que la Shrina réside sur Israël? Et la difficulté. Et il a obtenu. Je crois qu'il faut le lire, ça. Chez Tishra Shrina à l'Israël. Ça veut dire que la Shrina réside sur Israël en tant que peuple et pas seulement sur les prophètes d'Israël. On peut l'expliquer sur Israël en tant que Venatano, et il l'a obtenu. Je n'ai marre, halo, belertecha, imanu. Bon. Bikesh, c'est l'autre Israël, Shrina, halo, dekochavi. Deuxième chose, il a demandé que la Shrina ne réside pas sur les idoles. Donc cette demande de Moïse est contre notre Midrash. Enfin, elle s'oppose. Ce n'est pas une contradiction, mais je veux dire, va dans un sens autre. La difficulté ici, c'est que s'il a demandé que la Shrina réside sur Israël, est-ce que ça n'implique pas que ça réside pas sur les autres? Mais c'est pas comme ça en général qu'on a posé la question. Il ne faut pas avoir Aïn Ra. Bon, je demande un cadeau pour moi, mais je demande aussi que ce cadeau ne le donne pas à l'autre. Vous savez, ça relie un peu à la théorie du bonheur, de la relativité du bonheur. C'est-à-dire, moi je veux être heureux, mais je serai vraiment heureux que si l'autre est malheureux. C'est pas normal. Vous comprenez? C'est pas clair cette demande de Moïse. Qu'est-ce que Moïse veut dire? Vous comprenez la difficulté? Bon, il demande que la Shrina réside sur Israël. Très bien. Mais pourquoi il demande qu'elle ne réside pas sur les autres? Et puis, la troisième demande ne nous concerne pas. La troisième demande, c'est une question, et il a demandé que Dieu lui explique le rapport entre le mérite et l'histoire, et entre la morale et la nature. Il demande pourquoi il peut y avoir des justes qui souffrent et des justes qui ne souffrent pas, des méchants qui souffrent et des méchants qui ne souffrent pas. Ça, c'est la troisième chose. Et là, il y a aussi l'explication. Bon, revenons donc, c'est notre deuxième demande qui nous concerne ici, et il a demandé que la Shrina ne réside pas en dehors d'Israël. C'est pourquoi ça nous fait dire en général qu'effectivement, ce dont parle la Bible, que les Oumot Aharam ont eu le phénomène de la prophétie, va jusqu'au temps de la sortie d'Égypte. Et après, c'est bloqué. Il y aura donc des témoignages postérieurs, mais il faut les renvoyer à ce qu'était l'autre phénomène, celui du devin, et non pas celui du prophète. Mais que la catégorie de prophétie, telle qu'elle était connue pour Israël lui-même, était aussi connue chez les autres peuples, eh bien, cela va jusqu'au temps de la sortie d'Égypte. Et la Gemara nous dit que c'est Moïse qui a demandé que ça cesse chez les autres. Et le feu d'artifice, c'est Bilam. Donc, comme j'ai dit tout au début, dont la Torah elle-même va nous dire qu'en tant que prophète, il était d'envergure aussi grande que Moïse. Vous voyez, quel est le problème? Oui, très rapidement. Disons, la présence de Dieu. Le fait que, et pour le dire en termes un peu plus philosophiques, si vous voulez, le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une relation à l'absolu, mais dont l'essentiel viendrait de l'homme, de l'exigence humaine, mais vraiment d'une réponse de l'absolu, que l'absolu est présent, Shrina, que c'est vraiment là. Eh bien, je crois qu'on peut expliquer de la manière suivante. Quel était le souci, quelle était l'inquiétude de Moïse? Eh bien, peut-être cette expérience de Bilam nous l'éclaire. c'est ceci. Vous voyez, finalement, la Torah nous raconte l'histoire du point de vue de Dieu pour Israël. Mais ce même Dieu, ce Dieu unique, c'est le Dieu aussi pour les autres. Et c'est le Dieu aussi des autres. Et en particulier, pour notre problème, des adversaires d'Israël. C'est-à-dire, nous devons remettre tout ce problème à l'intérieur d'un monothéisme intégral. C'est-à-dire, lorsque Israël est aux prises avec Moab, ou est aux prises avec Édom, est aux prises avec Ishmaël, etc., et leur prophète, et finalement il est aux prises avec une autre créature du même Dieu, il y a donc un point de vue de l'histoire dont Israël est concerné, un point de vue aussi qui serait le point de vue de Moab comme centre, de Édom comme centre, de Cananéens comme centre. Vous voyez quel est le drame de ce problème? Ce que Moïse a demandé, c'est que ne soit plus dévoilé que la manière dont Dieu connaît l'histoire pour Israël, et non plus pour les autres éventuellement comme centre. C'est un peu peut-être dur de formuler comme ça, je vais essayer de l'expliquer. Est-ce que c'est bien clair? Non, c'est pas encore clair. Je vais décrire. Ouais, je vous demande 2 minutes. Est objective. En ce sens qu'elle ne se gêne pas pour condamner lorsqu'elle a condamné le héros de qui elle raconte l'histoire, c'est-à-dire Israël. C'est un des indices de l'objectivité de la Bible comme témoignage historique aussi, ce qu'elle ne veut pas être centralement, forcément, mais le fait qu'effectivement ce sont les seuls annales d'un peuple où ce peuple se critique lorsqu'il a à se critiquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Les prophètes d'Israël ne sont pas tendres pour Israël. Et c'est un cas particulier. Remarquez que, à la limite, Israël n'admet d'être invectivé que par ses propres prophètes. C'est pas n'importe qui peut se permettre d'invectiver Israël. Quand c'est Isaïe, Jérémie, d'accord, mais... bon, vous comprenez. Et justement, c'est un des privilèges d'Israël. C'est le peuple qui est interpellé. C'est le peuple qui est interpellé par la prophétie. C'est pas n'importe qui peut se payer ce luxe d'être interpellé par le prophète. Chez les autres, il n'y a pas de quoi. Vous vous rappelez de ce midrash, enfin j'exagère, mais pas tellement. Ce midrash qui dit que lorsque... on peut voir le même médecin à deux malades qui ont la même maladie dire à l'un et surtout fais attention, mange pas comme ça, fais pas ça, toutes des ordonnances, des mitzvot. Et puis à l'autre du dos, tu fais ce que tu veux. Alors quelle est la différence? Le midrash dit, mais celui-là a peut-être une chance de s'en sortir, mais l'autre, il n'y a pas de chance. Vous voyez la différence. Alors les prophètes interpellent Israël parce qu'il s'agit d'Israël. On va y en suivre. Je vous disais donc que la Torah, le récit historique dans la Torah et dans toute la Bible, est objectif. Il n'y a pas de complaisance. Lorsque le roi David fait une faute, pour prendre cet exemple en passant, eh bien le prophète impitoyable garde le compte-rendu de cette faute pour l'éternité des éternités. Et voilà, depuis tout ce temps-là, nous savons que David Améler a fait ça. Bon, c'est pas simple non plus pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, mais enfin, c'est à mettre en évidence que la prophétie en Israël n'a pas de complaisance pour Israël. C'est bien clair. Vous rappelez par exemple l'histoire de la vigne de Naboth. Bon, enfin que le roi David, qui avait toutes les vignes qu'il voulait, a eu envie de telle vigne-là, qui appartenait à un petit vigneron qui n'avait que cette vigne-là. Il voulait boire du vin de cette vigne-là, alors qu'il... Alors on lui dit, c'est le roi, bon, ben, tu ne veux pas me vendre ta vigne, je te la prends, grosso modo. Le prophète vient, tu n'as pas le droit. Et bon, non seulement ça s'est passé, ce qui est déjà grand, soit, mais c'est mis par écrit pour les siècles et les siècles. Il n'y a pas de complaisance vis-à-vis d'Israël. C'est bien clair. Mais ceci dit, à l'intérieur même de cette objectivité, c'est finalement le point de vue de Hachem Eloke Israël qui est formulé par cette shrina pour Israël. C'est le point de vue d'Israël comme centre de cette histoire racontée et dans sa relation avec les rivaux aux prises desquels il se trouve. C'est quand même le point de vue d'Israël qui est raconté par la Bible, malgré cette objectivité absolue. Est-ce que c'est bien clair? Et alors, cette même histoire dont nous sommes, si vous voulez, par postulat, le centre, cette même histoire raconte, c'est notre dossier qui est plaidé. Mais s'il y a, et il peut y avoir, un prophète chez telle ou telle nation, surtout les nations qui sont rivales de l'histoire d'Israël, eh bien, ils raconteront la même histoire. Dans une exigence de vérité équivalente, puisque c'est Nebuwa Amitit, s'il son avis, il son avis, s'il son prophète, il son prophète, mais en prenant le point de vue, par exemple de Moab comme centre, si vous voulez, dans une histoire biblique, à la manière de Moab, Israël aurait un tout autre visage que celui qu'il a dans l'histoire de la Bible à la manière d'Israël. Bien que, en réalité, il n'y a pas de subjectivité. C'est Adébarim, Anémarim Behemet, c'est Torat Emet. Mais malgré tout, la formulation de la prophétie a pour objet l'identité d'Israël et non pas l'identité des autres peuplades. Est-ce que c'est bien clair? Alors ce que Moïse a demandé, c'est que cesse d'être formulé dans le monde, à travers la prophétie, le point de vue des autres. Est-ce que c'est bien clair? Au niveau de la prophétie. C'est énorme comme demande. C'est ça lui demande. Il demande, bon, la Shrina réside sur Israël, et il demande qu'elle ne réside pas sur les... Ça veut dire qu'il y aurait un espèce de cafouillis nous étions capables d'entendre le point de vue de Moab, le point de vue de Esav, à la manière des prophètes d'Israël. Enfin, c'est très difficile ce que j'essaye de formuler, mais je crois que finalement vous avez compris. Il faut comprendre cela à l'intérieur de la catégorie d'un monothéisme absolu. Lorsque je suis aux prises avec Esaü, disons lorsque Jacob est aux prises avec Esaü, mais derrière Esaü, il y a le Dieu de Jacob, n'est-ce pas? C'est pas un monothéisme qui consiste à dire il y a un seul Dieu et c'est le mien. C'est un monothéisme qui consiste à dire il y a un seul Dieu et c'est le tien. Est-ce que vous comprenez? Bon, par conséquent, il y a aussi un point de vue de cette histoire qui est le point de vue d'Ésaü. Il y a un point de vue de cette histoire qui est le point de vue d'Ishmaël, de Moab, etc. Et bien Moïse a demandé que ces points de vue-là, on ne les entende pas. Parce que ça gênerait trop le déroulement de l'histoire. En fait, c'est moi qui interprète, mais c'est surtout l'idée qu'il faut découvrir. Il a demandé que la prophétie cesse chez les nains. Et par le biais de quoi? Probablement de ce qui apparaît là, avec la prophétie de Bilam. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour la première question? Que chaque manière d'être homme, dans son équation à elle, a la possibilité de cette expérience de la prophétie, de voir le projet du Créateur à travers ce qu'a été l'équation personnelle de la Grèce, du Japon, de la Chine, de l'Irlande, de tout ce que vous voulez. Ce serait la prophétie au nom de telle ou telle nation. Alors que nous avons, nous, la prophétie au nom d'Israël. Encore une fois, ce n'est pas du tout non objectif. Je vous ai cité cette règle, qu'il n'y a pas de complaisance, mais il y a aussi d'autres règles. C'est vrai absolument, mais on sent que Dieu prend parti pour Israël. Enfin, je vais jusque-là. C'est le Dieu unique, c'est le Dieu de tous. Mais voilà, il a formulé à travers la prophétie ce qu'il a à dire à travers le projet d'Israël et non pas celui. Vous savez que ce monothéisme absolu, nous nous sommes peut-être à travers les siècles habitués à ne pas le percevoir, mais il éclate dans tous les midrashim, il éclate dans tous les commentaires. Par exemple, lorsque le Talmud enseigne que lorsque Israël va en exil, la Shrina va en exil avec lui, la présence de Dieu va en exil avec lui, eh bien il enseigne d'après un verset où il apparaît que c'est vrai aussi pour Moab. Que lorsque Moab va en exil, la Shrina va aussi en exil avec Moab, dans l'exil de Moab, dans l'histoire de Moab. Donc le fait que de dire que la Shrina va en exil, ça ne veut pas simplement dire qu'elle va dans l'exil d'Israël, que là où il y a Israël, la Shrina est aussi avec Israël, ça ne veut pas simplement dire cela. Ça veut dire que lorsqu'Israël est en exil, la Shrina est en exil. On en a peut-être pas entendu. Ça veut dire que lorsqu'Israël va en exil, la Shrina est en exil. Pas seulement qu'elle est en voyage. Elle est en exil de Shrina. C'est-à-dire, elle n'est pas dans son... Alors, il ne faut pas se réclamer d'une formule de ce genre. Vous voyez bien qu'il y a la Shrina dans la diaspora, puisque le Talmud dit que lorsqu'Israël va en exil, la Shrina va en exil. Ça veut dire que lorsqu'Israël va en exil, la Shrina est dans son exil. Elle, son exil de Shrina. Ça veut dire que la Shrina est dans la diaspora. Et vous vous rendez compte ce qu'on lui a fait? De l'amener là-bas? Vous comprenez? Il faut mettre l'accent. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, c'est un timtum épouvantable. Nous avons des piyutim, surtout des mkubalim. Miyom gelotech ani hus limkomi dar. C'est-à-dire, la Shrina se plaint et dit, en parlant à Israël, depuis que tu es en exil, moi, je n'habite pas chez moi. C'est la Shrina qui parle. Bien, ça veut dire un monde avec cette absence de présence. Un monde où ce n'est pas la présence de Dieu qu'on perçoit, mais son absence. C'est ça le Jésus de la Shrina. Et effectivement, c'est par le biais de l'expérience de l'absence qu'on se relie à Dieu depuis la destruction du temple. Et je vous ai cité cet exemple pour effectivement montrer que ce niveau d'universalisme est authentique dans la tradition talmudique et midrashique. Et cependant, voilà ce que Moïse demande dans cette prière de la Gemara. C'est que, vous rappelez, il y a quelques mois, il y a eu un colloque de théologiens chrétiens à Beyrouth. Vous rappelez ce fameux colloque il y a quelques années déjà. Peut-être. Eh bien, j'ai un peu pensé à cela. On peut le relier. Ben, voilà, c'est-à-dire des hommes qui ont voulu dire la Bible avec le point de vue du Liban. Liban, pareil. Et pourtant, le Liban, c'est un personnage de la Bible. Vous voyez voir, on peut faire ça avec n'importe qui. C'est Laban. Mais voilà, c'est ça que Moïse a demandé, qu'à partir de la sortie d'Égypte il y a 3000 et quelques années, qu'à partir de ce temps-là, eh bien, ça n'ait plus aucun sens de vouloir dire l'histoire selon les critères bibliques à partir d'une identité autre que celle d'Israël. Vous voyez, jusqu'où ça va. Donc, pour résumer cela, ce premier point, ça veut dire qu'en principe, chaque nation peut avoir sa capacité prophétique pour elle. Premièrement, nous avons eu un midrash qui nous montre pourquoi cela est possible, pour que dans chaque nation il y ait expérience de l'absolu à leur manière, mais en vue que ça les mène à l'expérience centrale de la prophétie authentique. Et puis deuxièmement, que cela implique, vu ce qu'est la prophétie, c'est-à-dire la compréhension de l'histoire, ça implique un engagement. C'est-à-dire, voilà, une histoire se fait à travers 1000 tentatives. Un jour, Dieu, dans son jugement, a choisi de dire que c'est par celle d'Israël que passe le salut de cette histoire, alors que les autres points de vue ne soient plus formulés. Voilà ce que Moïse demande. Est-ce que c'est bien clair? C'est dur, hein, de tout cela. Bon, enfin, si vous voulez, je ferai peut-être une petite afsaka pour éclairer cette question, et on va aller à la deuxième, parce qu'il nous reste du lame. Si vous avez des questions. Je veux dire, non, si j'étais suffisamment clair. S'il y a des questions de fond, on les verra après, avec toutes les questions. Mais s'il y a des questions de mise au point du problème, est-ce que c'est... Oui,
très rapide. Si la Torah est vraiment la Torah qu'émet, est-ce que ça peut bien faire qu'il y ait la prophétie ailleurs? Parce qu'il y aura de toute façon...
Non, parce que la Torah peut être Torah Temet. Et ici, Torah, ça ne veut pas dire seulement loi, mais vision de l'histoire, définition d'identité, pouvoir dire le bien de le mal et de l'autre. L'air dit, en vue de trier et de ne prendre que le bien et de laisser le mal. Mais la Torah est Torah Temet, mais il peut y avoir Nevi et Sheker. C'est-à-dire qui, en tant que Nevi'im, sont vraiment des Nevi'im, c'est des prophètes. Mais ils ne disent plus la vérité. La vérité, ça veut dire l'authenticité d'eux. Et ce ne serait plus que les prophètes. Mais il y aurait un cafouillage spirituel dans le monde si, effectivement, il pouvait y avoir, dans les catégories de la prophétie, la formulation du point de vue anti-Israël.
Ça n'empêche pas les goyim de se tromper, de toute façon, ils ne
Oui, pas, mais ce n'est pas la même chose. Vous comprenez, quand les théologiens à Beyrouth disent qu'ils parlent au nom de Dieu, tout le monde rigole. Enfin, mais s'il y avait vraiment des prophètes chez les nations, comme au temps de la sortie d'Égypte, on rigolerait pas, parce que ce serait des prophètes. Vous comprenez? Alors, c'est ce que Moïse a demandé dans cette tefila. Oui, il y a un drache là-dessus, oui. Moab, c'est une des peuplades. Attendez, je reprends très brièvement. Je reprends votre question. Je vais introduire ça dans la deuxième question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous répondez tout de suite. Voilà, c'était ce point-là, surtout, il fallait mettre en évidence. Les attendus de légitimité d'une catégorie pareille, la prophétie chez les autres nations, du point de vue de la Bible elle-même. Non, ça, on est arrivé à la fin, mais je veux dire d'abord en quoi cela est normal que ce soit possible. Et le fait que la Gemara nous dise que Moïse a demandé que ça s'arrête, je vous ai donné une explication personnelle. Enfin, personnelle, c'est pas tellement personnel, mais enfin, une manière de voir qu'est-ce que Moïse a voulu demander dans cette prière. Eh bien, il a été inquiet de cette éventualité que, à la manière de la prophétie, on puisse formuler des points de vue antagonistes d'Israël. Est-ce que c'est bien clair? Bon.
Et le fait que la diaspora doit aller chercher la parcelle de Shekhinah perdue.
Eh bien justement, il n'y a pas de différence. La Shekhinah est en exil, ça veut dire qu'il y a dans la dispersion, que la dispersion, c'est la dispersion d'étincelles, de sainteté, de valeurs qui sont prisonnières de la périphérie du monde. Alors Israël va en exil pour délivrer ces parcelles, mais pas pour s'y installer et leur faire des chasses et des écrins et des statues, en fait des stèles. Je sais pas comment, ça veut dire pour les délivrer et les ramener à Jérusalem. dans ce thème-là. Je veux dire que nous sommes habitués à cette idée, la Shrina est en exil. Mais alors, vous voyez, je vais encore vous donner d'autres exemples. Mais on s'habitue à... Et alors, eh bien, très bien, tant mieux, statu quo, comme disait... Mais pas du tout. Comme par exemple, dans la... C'est un malheur, c'est un drame, il faut arrêter ça. Gemara nous avertit, vous savez, la Shrina est en exil. Alors nous, on se frotte les mains, même dans l'exil, il y a la Shrina. Mais c'est tout le contraire, ça veut dire qu'il faut la délivrer de l'exil. Et c'est clair. Vous savez, c'est dans les contes de fées, c'est un peu l'histoire de la Belle au bois dormant. Mais elle voudrait bien se réveiller, cette Belle au bois dormant. Est-ce que c'est clair? Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, nous avons un verset où la Torah nous dit « Car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Et on lit ça, habitué, on lit ça « Car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Allez, on renonce, on ne peut pas le voir et vivre. Mais on ne peut pas renoncer. Il faut le lire avec un accent. « Car l'homme ne peut pas me voir et vivre ». Alors débrouille-toi pour que ça change. C'est ça que veut dire le verset en tant que révélation. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a dans Bahai, Haval, dommage. Il faut ajouter le dommage, parce que sinon c'est pas clair. Ou bien quand la Torah dit, parce que poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Et on ne se rend pas compte du scandale. Alors voilà le sens de l'histoire du monde, de l'homme, selon la Bible. Parce que poussière tu es, et tu retourneras à la poussière. Et puis, sermon pieux là-dessus et tout ce que vous voudrez. Mais pas du tout, l'accent est tout à fait autre. Parce que voilà le malheur qui t'est arrivé. Bien que tu viennes de la poussière, mais que tu étais destiné à la lumière, voilà que, dommage, tu retournes à la poussière. Mais change ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut. Ne me dites pas que c'est de la mystique. Parce que c'est, si c'est ça de la mystique, alors ça veut dire que c'est la mystique et la vérité. Mais je ne crois pas que ça. Ça correspond effectivement à ce qu'a été l'exigence qui a mené à la prophétie biblique. Imaginez ce scandale épouvantable, quel que ce serait ce dieu monstrueux et terrible qui nous dit tranquillement, mes agneaux, poussière, poussière. Ça commence à vous dire. Vous voyez qu'il faut un peu parler comme ça pour arriver à parler de ces choses, sinon ce serait trop difficile à exprimer. Oui.
C'est très différent de dire quand Israël est en exil, la Chine est en exil, ou quand Israël, quand la Chine est en exil, Israël va chercher.
Écoutez, ce sont, bon, vous revenez à ce problème, ce sont deux thèmes un peu parallèles. Ça veut dire, quelles que soient les raisons pour lesquelles Israël est en exil, finalement, à quoi ça sert? Alors, là, nous avons cette réponse, ça sert à ceci, c'est que, min bemino, la présence d'Israël dans l'exil, éveillera, c'est le rôle de Joseph dans sa diaspora, éveillera ses valeurs prisonnières de la diaspora des nations. Puisque la diaspora, c'est d'abord la diaspora des nations. Il y a partout, même dans l'impureté la plus grande, il y a une étincelle de sainteté qui se cache et qui est prisonnière et qui agonise et qui demande qu'à être libérée. Alors si déjà Israël va en exil, au moins que ça serve à ça. D'accord ? Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de dire que nous sommes garantis, même dans l'exil, puisque la Shrina est aussi dans l'exil avec nous pour nous protéger. C'est vrai, mais c'est un drame pour elle. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut avoir pitié de cet exil de la Shrina si on prend au sérieux ce dont on parle. Si vraiment il y a une Shrina et qu'elle est vraiment en exil, il faut avoir pitié et se dépêcher de mettre fin à cet exil. Chaque fois que le Zohar dit la plus grande malédiction qui peut arriver comme punition de faute, c'est de dire « Arichut Agalut », l'allongement de l'exil. Parce que c'est l'allongement de l'exil de la Shrina qui vous tocham Hashem. C'est-à-dire là où est Israël, la Shrina est, mais en exil. Vous savez, Israël dans l'exil est diminué. Alors la Shrina est diminuée. Et diminuée, ça veut dire qu'elle est contractée, elle est ligotée, elle est prisonnière, elle est angoissée. Angoissée, ça veut dire on étouffe. Et alors on oublie la Shrina est étouffée. C'est pour ça qu'elle ne peut plus parler, puisqu'elle étouffe. Alors il n'y a pas de prophétie dans l'exil. Pour garder cette image. Alors il faut y mettre fin. Vous savez que je suis obsédé par ce risque de chercher ou de donner une légitimité à la diaspora. Mais ça, ce dossier, je peux le plaider, si vous voulez. On le plaidera pour vous, mais aussi, objectivement. Mais je pourrais le plaider, ce dossier, et dire qu'est-ce que c'est que la grande vocation de la diaspora et de l'exil. J'ai étudié cela pendant des années de ma vie. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est fini, uniquement. Il y a eu un temps où, maintenant, c'est fini. Et continuer dans le temps qui vient, ce qui était la vérité du temps passé. Et il ne peut pas y avoir d'autres controverses que celle-là. Est-ce que le temps est fini ou pas? C'est là qu'est le vrai problème. Alors, pour certains, le temps est déjà fini. Pour d'autres, le temps continue encore. C'est là qu'est le conflit, la controverse, si vous voulez. Mais tout le monde est d'accord que, quel que soit le dossier qu'il plaide, tout le monde est d'accord que l'exil, c'est l'exil et que ce n'est pas l'idéal.
Une question, là.
Oui.
Il me semble qu'à l'intérieur même, l'exil ne comprend pas une dimension territoriale. Et si vous voulez, enfin,
expliquez-moi,
je vais comprendre. Pour préciser, oui. Il me semble pas que la dimension territoriale de l'exil n'est peut-être un indice d'un autre exil.
Expliquez-moi, je comprends pas. Ah, d'un exil spirituel, vous voulez dire? Bon, mais ou bien il y a une pétition de principe, ou bien je comprends pas.
Vous voulez dire que quand vous parlez d'exil au sens territorial, il me semble que vous réduisez la notion d'exil à une surface
géographique. Oui. Oui, je voudrais à la limite servir au même. Non, mais j'entends les choses comme vous.
Non, mais attendez, je voulais préciser. C'est-à-dire, dans la notion même, quand vous parlez de monothéisme, il est implicite que cet exil ne se situe pas uniquement sur un plan de la surface.
Bah, vous voulez dire qu'on peut être un juif de l'exil même à l'intérieur de l'Israël. Bien sûr. Mais.
Ne concerne pas un espace.
Comment?
L'exil ne concerne pas un espace.
Oui, bon, d'accord. J'ai compris. Je vous donnerai un certain nombre de références, de réponses, mais je vous signale que c'est en réalité pas notre sujet. Ça risque de nous prendre du temps.
Vous nous y avez engagé.
Si vous voulez. Vous avez aussi raison, comme quoi on n'y échappe pas. Mais je vous avertis au début, c'est le problème du temps, du siècle. On va pas du siècle. J'espère que ce sera validé. Écoutez, je vous renvoie en tout cas à un article que j'ai écrit là-dessus. Vous savez, j'écris très peu, mais ça m'est arrivé d'écrire un peu là-dessus. Mais il y a assez longtemps que ça a paru. Ça s'appelle « Le temps du tri ». Si vous avez cet article, moi je ne l'ai pas ici, mais si vous avez cet article, relisez-le. Et vous verrez que je le dis moi-même, que bien évidemment, il ne peut pas s'agir uniquement d'une question d'état civil, si j'ai un passeport français ou un passeport israélien, d'ailleurs j'ai les deux, vous savez, puisque j'ai droit à un passeport français, puisque je suis algérien. Et pas seulement d'une situation purement géographique. Il y a plutôt que se définir comme une entité de l'Église. Mais le fait qu'il ait fallu s'accommoder de cela, trouver des stratégies de justification, c'est aussi vrai. Donc, c'est une querelle fausse, parce que chacun peut plaider le dossier de l'adversaire. Celui qui pourrait être Israël peut plaider le dossier de l'adversaire. La preuve, c'est que le dossier de l'adversaire dans son identité. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'il trouve ? En même temps où il faut la justification, et alors la faute serait de retourner de façon prématurée, la faute, c'est une faute de manière. On est dans le temps passé. Moi, j'ai l'impression, et je ne manque à ça depuis des années, nous ne sommes plus dans le temps, mais dans le temps précédent. Une étape précédente ne s'arrête jamais d'un coup, et bien que cette étape précédente, si vous voulez, elle continue à être à 5 tours, si vous voulez dire. Imaginez deux tours, une direction de la suite. C'est pas dans laquelle on trouve. Vous comprenez, c'est pas subitement que cette mutation se passe. Pendant la moitié de ma vie, je n'étais pas un aveu, c'est tout le monde le sait. Pendant la première moitié de ma vie, j'étais de l'autre côté du problème. Et j'ai lutté dans ce sens-là. Et puis un jour, c'est arrivé que j'ai passé de l'autre côté, et alors je lutte pour le deuxième. C'est très subjectif ce que je vous dis là. Mais c'est un dossier qui peut être fait. Alors je referme là.
Je voudrais quand même vous dire,
oui.
Préciser ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il y a un moyen de trouver sur le plan de la compréhension et solution,
de distinguer entre le point de vue de l'homme et le point de vue de Dieu, c'est-à-dire le point de vue de l'histoire et le point de vue de Dieu. À partir du verset que tout le monde connaît, à partir du moment où Dieu dit « qui lit kol ha'aretz » car toute la terre m'appartient, il est bien évident qu'on peut parler d'exil de la Shekhinah, c'est du point de vue de l'homme. Si nous nous plaçons du point de vue de Dieu, alors ces catégories n'ont qu'un sens pour la vie.
Oui, alors il faut rapporter.
Dans cette perspective, il faut dépasser les dimensions géographiques et historiques et ne pas perdre de vue la dimension
historique. C'est le point de vue de l'homme de dire que Dieu peut être en exil quelque part. Que le point de vue de Dieu, c'est qu'il en exige nulle part.
C'est évident.
Attendez, je voudrais. Vous avez le privilège que nous avons tous, vous et nous, puisque c'est un dialogue entre deux frères en plus.
Ça, c'est un accident d'histoire.
Je crois pas. Parce que des accidents. Une minute, s'il vous plaît, je voudrais juste dire quelques phrases sur ce point. Il faut se référer au verset lui-même, d'abord. Le contexte immédiat de Kili Kol Haaretz ne concerne que Eretz Israël. Et c'est par extrapolation de l'analyse midrashique que c'est étendu à l'intérieur d'un monothéisme cohérent à Kili Kol Haaretz, dans le sens de pas seulement la planète Terre, mais aussi, on peut l'étendre plus loin, l'univers tout entier, le cosmos tout entier. Enfin, mais ça, je voudrais préciser que le point de vue qui consiste à dire qu'en dehors d'Eretz Israël, Dieu n'est pas en exil, c'est un point de vue de l'homme. Ça, il faut voir les textes et la discussion va finir. Oui, vous voulez encore une question?
Je voulais un peu l'idée de l'église qui est cette marque de passé, qui pour moi sont vraiment en exil et font partie ni de la catégorie des juifs croyants, ni des non-juifs croyants, mais d'une autre secte qui se dit détachée de Dieu. On a coupé complètement de.
Écoutez, là encore vous ouvrez la porte d'un problème assez considérable. Je voudrais proposer le postulat suivant qui sera le postulat, si vous voulez, personnel de mon point de vue d'analyse. C'est que ces deux dimensions, c'est un problème énorme, mais ces deux dimensions, définition d'Israël en tant que nation et définition d'Israël en tant que religion, ont quand même une relation hiérarchique. Selon moi, la dimension enveloppante, globale, englobante, et la dimension du point de vue des descendants des patriarches, c'est-à-dire ce que l'on appelle dans notre vocabulaire contemporain une nation, ce terme n'est peut-être pas approprié, mais c'est de cela que je veux dire, et que la dimension religieuse est seconde à l'intérieur, plus profonde, plus importante, si vous voulez, parce qu'au second degré, mais quand même seconde à l'intérieur de la première. Il peut y avoir un autre point de vue que j'admets, mais l'histoire a montré qu'il est en quelque sorte en échec. Ce serait le point de vue inverse, que la dimension d'identité d'Israël commence par être religieuse et que c'est secondairement qu'elle est nationale. Ce dossier aussi peut être plaidé. Mais je choisirai par postulat la première définition qui me semble plus conforme à tout ce que la Bible nous dit d'Israël. C'est d'abord un peuple. Et dans ce peuple, comme tel, parce qu'il était celui-là, il y a eu la révélation religieuse. C'est d'abord le peuple des patriarches. Et en tant que tel, les prophètes et Moïse, ils sont apparus, pas l'inverse. Ce n'est pas une si vous voulez, ça n'a pas commencé par être une confession religieuse, qui, par un accident d'histoire ou parce que c'était inévitable, serait devenu une nation. De ce point de vue-là, notre histoire serait incompréhensible. C'est l'inverse. Par conséquent, ces juifs, même athées, bien sûr, ne sont pas au centre de la Kedusha d'Israël, de la sainteté d'Israël, à l'effet de leur conscience individuelle. Mais tels quels, ils font partie, tant qu'ils sont solidaires, et j'ajoute inconditionnellement, parce qu'il n'y a pas d'autre solidarité, tant qu'ils sont solidaires de l'histoire collective d'Israël, sont dans l'identité d'Israël. Ce que dit la Gemara, à Israël, à Fralpi Shechata, Israël ou, quelle que soit la faute. Bien qu'il faut préciser dans la marge, il y a des cas limites, des cas extrêmes. Mais précisément, il renvoie à nos critères. Ça ne veut pas dire qu'il faille, qu'on a le droit de fauter. Mais la Gemara dit clairement, Israël, même dans la faute, c'est Israël. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se donner le droit de fauter, puisque c'est bien clair. Mais ceci dit, ça prouve que l'identité d'Israël est un problème d'existence et non pas de croyance. Ou avant d'être convaincu. D'une manière d'être. Pour nous qui sommes croyants, et je suppose qu'à la limite, on est obligé de schématiser beaucoup, mais enfin disons, pour dire cela le plus modestement possible, pour ceux qui, d'entre nous qui croient être croyants, eh bien, Il y a aussi, effectivement, un niveau d'authenticité de la croyance et de contenu de connaissance de la vérité. Mais nous savons, parce que c'est dans cette religion-là que l'on croit, que ça commence d'abord par une définition au niveau de l'existence. Si vous voulez, lorsque nous avons étudié le problème de la messianité, la grande différence entre la catégorie de la messianité en théologie chrétienne et la catégorie de la messianité en théologie juive, par exemple, c'est que pour le chrétien, la messianité, c'est une manière de croire, c'est une croyance, on croit dans une certaine identité que l'on prend comme divinité, finalement. Tandis que pour Israël, c'est une manière d'être, c'est pas une manière de croire. Est-ce que nous sommes ce en quoi les chrétiens croient lorsqu'ils croient au Messie. Je ne sais pas si vous en êtes plus. Et d'ailleurs, d'une façon et nous vivons cette histoire-là, d'ailleurs. Et nous la vivons comme ils l'ont raconté. Je ne sais pas qui leur a expliqué que c'est comme ça. C'est-à-dire d'abord un long temps de crucifixion, et puis après la résurrection. Alors, pour rattacher ça au problème précédent, eh bien, le temps de la crucifixion est déjà passé pour nous. C'est déjà peut-être, grâce à Dieu, le temps de la Pâque, pour nous, pour notre histoire. Et alors, les chrétiens n'arrivent pas à voir que c'est déjà arrivé, la sortie des filles. Enfin, que c'est déjà arrivé, la rédemption. Alors, tout est au commencement, comme je vous dis souvent, quand il faut accoucher d'un enfant, eh bien, avant qu'il soit dans le berceau, il est d'abord dans l'embryon. Et un embryon, c'est pas propre. Et c'est le stade auquel nous nous trouvons. Mais on va revenir à Bilham. C'est la Gola. C'est très joli. Écoutez, moi je ne demande pas mieux. Je crois qu'on pourrait effectivement voir dans ce paradoxe quelque chose d'important. Mais encore une fois, au bénéfice de ce que nous avons dit tout à l'heure, que nous sommes dans un temps de passage et que par conséquent il ne s'agit pas de critères brutalisés déjà de type territorial ou d'état civil. À partir du moment où un juge de la Gola prend acte de cette mutation d'identité qui fait que nous sommes maintenant la diaspora de l'État d'Israël contemporain et plus la diaspora de l'État juif de Judée détruit par les Romains il y a 2000 ans, que cette mutation-là s'est passée, alors là je vous suis, mais pour la première partie en tout cas, que les juifs de la diaspora seraient déjà des Israéliens. Pour la deuxième, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire, je ne veux pas comprendre. Mais peut-on savoir qui a dit cette admirable chose? Oui, attendez, vous savez, il faut se méfier des paradoxes quant au bout, il risque d'y avoir vie humaine, pour la vie. Je crois que nous sommes au stade où on peut dire que c'est la première fois de notre histoire. Il y a quelque part, malgré les difficultés pour l'identité juive, un abri possible. Et que cet abri n'est pas dans la diaspora, quelle que soit la diaspora, mais qu'il est en Israël, quelles que soient les apparences. Ça a l'air d'être un paradoxe, ça aussi. Mais je voudrais vous rappeler l'image que je vous ai dit qu'un jour, à ce sujet, c'est que quand il y a un ouragan, quand il y a un cyclone, le seul endroit où on est en sécurité, c'est au centre. Bien, ceci dit, revenons à notre problème. J'ai encore pour 10 minutes pour le premier exposé. Ensuite, on fait une petite absaka, nous aurons le deuxième exposé, et après, nous aurons la discussion, si vous voulez. Mais voilà, j'en arrive à Bilham. Il y a là, quand même, ici, un phénomène exceptionnel. C'est que Bilham semble représenter le point de vue récapitulatif de la coalition des nations par rapport à Israël, et non pas le point de vue de telle ou telle nation par rapport à Israël seulement. Voilà la caractéristique différente. C'est-à-dire, lorsqu'arrive le temps où se produit effectivement cette coalition des nations par rapport à Israël, alors apparaît cette envergure de la prophétie qui nous est dite par nos textes chez le Goïm, mais de la même envergure que celle de Moïse, parce qu'elle est à l'échelle de l'universel. La prophétie de Moïse est à l'échelle de l'universel du point de vue d'Israël, et la prophétie de Bilham est à l'échelle de l'universel du point de vue de la coalition contre Israël. Voilà la caractéristique essentielle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle c'est cette prophétie-là dont on nous a laissé la trace dans la Bible. Alors que les autres sont appelés les Moshlim, ceux qui sont capables de faire une prophétie d'analogie. Le Mashal, ça veut dire l'analogie. Et de dire, à titre de Moab, ou à titre d'Ishmaël, ou à titre d'Edom, etc., etc., ce qu'a à dire le point de vue de l'histoire, si l'histoire passait à travers eux comme centre, mais par analogie. Tandis que Mahazé, Shaddai et Hezé, ce que notre Sidra dit de Bilam à l'échelle de l'absolu, et puis à la limite de cette envergure comparable à l'envergure de Moïse, c'est parce qu'il y a là, dépassant le point de vue de telle ou telle rivalité partielle, celui d'une coalition universelle par rapport à Israël. Et lorsqu'on est à ce niveau-là, eh bien, la propagande, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est ce qui est arrivé à Bilam. Alors qu'il voulait maudire, il est obligé de venir. Voilà, grosso modo, le thème qu'il faudrait maintenant analyser. Peut-être ça suffit de dénoncer le thème lui-même. Et simplement, je vous citerai un deuxième midrash qui se trouve dans la Gemara de Nida, à la page 31, et qui nous montre bien cela. Cette idée-là, c'est que l'envergure de Bilam est qu'il récapitule à l'échelle de l'universel le point de vue des non-Israël. Et peut-être, là c'est une parenthèse, mais vraiment très subjective, personnelle, peut-être que nous nous trouvons de nouveau dans un temps pareil, c'est-à-dire que nous ne sommes plus un temps de rivalité catégorifiée, de telle ou telle catégorie de manière d'être rivale par rapport au point de vue d'Israël, mais nous sommes déjà un temps où s'universalise le point de vue anti à Israël, opposé à Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y avait un bilan aujourd'hui, ce serait le porte-parole de la propagande de l'ONU, enfin, je veux dire, à l'échelle de Ummat HaOlam Bichlal, eux tous ensemble, c'était ça, Bilam. Et voilà sur quoi ça porte. Et on ne peut pas ne pas être saisi, frappé par la cohérence de l'analyse talmudique. Voilà sur quoi ça porte, nous dit le Talmud. Dans un certain verset, je donne les références, c'est d'abord à propos du verset 10 du chapitre 23, dans un certain verset, un peu plus loin, Bilam va dire de lui, Shetum Aïn. C'est le verset 3 du chapitre 24. Numa Geber Shetum Aïn. Et ça veut dire, et là ici il y a un petit clin d'œil de l'histoire, ça veut dire le Geber, le héros, Shetum Aïn a l'œil fermé, comme s'il avait un bandeau sur un. Il s'agissait de Bilam. Ça veut dire qu'il voit, mais les yeux fermés, à la limite, pour prendre cette indication. Et la Gemara s'est demandé, et pourquoi il a eu l'œil fermé? Elle dit, voilà, je vous lis la Gemara elle-même, je vous dis que c'était donc le verset 10 du chapitre 23, c'est bien ça? Qu'est-ce que j'ai dit quand j'ai... Non, c'est du chapitre 23. Mi mana afar Yaakov, ou mispar et rova Israël. Le verset veut dire, Bilam, dans sa vision, dit, mais qui pourrait, mi mana, qui pourrait compter, faire le compte de la poussière de Jacob? Ou mispar et rova Israël. Et qui peut faire le nombre, mispar, de la génétique d'Israël, de rova Israël. Et voilà de quoi il s'agit, je vous lis la Gemara elle-même. Darash Rabbi Abba. Maï dirti mimana afar Yaakov, mispar et rova Israël. Rabbi Abba a enseigné, que veut dire ce verset, quand dans la bouche de Bilam, qui a compté la poussière de Jacob et la génétique d'Israël, ça veut dire comment se passent les engendrements? Tel spermatozoïde avec tel ovule, c'est ça, Rova. Et voilà ce qu'il a voulu dire. Mais la maître, de là on apprend, chez Akadosh Baruch Hu, que le Saint béni soit-il, Yoshev est assis, mais Sofer est très lié au TM chez Israël, et compte, fait le compte de, tient la comptabilité de la génétique d'Israël. Matai Tavo Tippa, chez Atsadik Notsar Mimena. Et qu'est-ce que Dieu cherche dans son observation? Quand viendra la goutte, littéralement, l'ovule, si vous voulez, d'où un tzadik, un juste, germera, et à la limite le Mashiach. C'est-à-dire, à quoi s'occupe Dieu pendant l'histoire? Quelle est sa fonction de Mashiach de l'histoire, de juge de l'histoire? Eh bien, il cherche à savoir comment les juifs se croisent entre eux de telle sorte de fabriquer un tzadik. Vous voyez à quel niveau ça se passe. Et que c'est cela que Bilam observait. C'est à cause de ça qu'a été fermé l'œil de Bilam le méchant. Amar, il a dit, Mi shehu tahor vekadosh, umshartav tehorim ukdoshim, yatsis badavarze. Il n'a pas compris, Bilam. Il n'a pas compris que le rôle de Dieu comme providence, c'était cela. De surveiller attentivement, comme si j'ose dire, m'excuse de la forme, comme un garçon de laboratoire qui regarderait au microscope du monde, comment les juifs s'y prennent pour fabriquer le Messie. Le vendredi soir. Eh bien, mais ça veut dire que, alors, Bilam, nous dit cette Gemara, le prophète des nations, est scandalisé. Et il dit comment? Celui qui est le pur et le saint, et dont les serviteurs sont purs et saints, s'occupe d'une observation microscopique de ce genre? Il ne comprend pas. Alors, Miyad Mispit Eno. Et alors c'est là que son œil a été fermé, dit-il, Neum Ageber Setumai, puisqu'il dit de lui-même, c'est la prophétie, c'est la parole du héros à l'œil fermé. Et ça veut dire la parole du héros à l'œil fermé, Bilam, c'est celui qui ferme l'œil pour ne pas voir, que l'essentiel de la prophétie consiste finalement de voir par qui passera dans les engendrements la lignée qui engendrera le Fils de l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le lit d'Israël, si vous m'excusez des termes. Mais enfin, que c'est de cela qu'on s'occupe. La loi juive, comment on mange et comment on fait les enfants. Ça, c'est dans la Maseret Nida, que c'est le serve de Shranaur. Et alors, c'est la réaction indignée de l'homme de religion en dehors d'Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous les juifs, le grand, le pur, le saint béni soit-il, de quoi vous dites qu'il s'occupe dans la loi d'histoire de casseroles et de draduits. C'est bien ça, la contestation contre le Shranaur. Ça veut dire l'incapacité de voir qu'effectivement le sens de l'histoire passe dans la fabrication d'une manière d'être homme qui sera le véhicule de la réussite des valeurs morales et que cela passe à travers Israël. Bien, j'ai grosso modo fini cette introduction. J'ai bien conscience, une fois de plus, d'outrer, et c'est pas seulement par méthode, je crois que on peut pas faire autrement, si c'est ce dossier-là complète, d'outrer le caractère, comme on dit d'habitude, de la spécificité ou du nationalisme de cette manière d'être homme que l'on parle, la société d'Israël. Bien entendu, il faudra nuancer les caractères abrupts. Mais enfin, pour résumer en trois phrases, cette analyse, c'est ceci. Il fallait d'abord découvrir que peut représenter le fin de la prophétie en dehors d'Israël. Et voilà ce qu'il a représenté. Il a représenté que tant que c'était en cours de choix, tous les points de vue pouvaient être plaidés. Mais qu'à partir du moment où, après la révélation du Sinaï, Moïse demande, eh bien que ça s'arrête chez les autres, voilà ce que ça veut dire. Qu'il n'y a qu'un seul point de vue qui doit être formulable. C'est le point de vue de Dieu voyant l'histoire à travers Israël. Et il n'y a plus...